Une reconstitution presque 40 ans après les faits, en présence du suspect Yves Chatin, jamais jugé. 39 ans que Marie-Thérèse Bonfanti a été tuée dans l'Isère, au nord de Grenoble. Elle avait 25 ans, elle était mère de deux enfants et elle livrait des journaux. Alors, comment organise-t-on une reconstitution après autant de temps? À quoi ça sert? Mais d'abord, le rappel de cette histoire avec Elisa Tranin et les enjeux de ce rendez-vous judiciaire très particulier.
C'est dans cette maison qu'a eu lieu le drame il y a 39 ans, mais elle a depuis été démolie. Pour reconstituer le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti, les gendarmes ont donc restitué au mieux, dans un gymnase, le décor de la scène de crime. Devant la famille de la victime, le principal suspect Yves Chatin a dû rejouer les mêmes gestes qu'en 1986, quand Marie-Thérèse Bonfanti se présente à sa porte. Ce 22 mai, la jeune mère de famille distribue des journaux. Vers 15h30, elle arrête sa Peugeot avenue de la gare, devant ses habitations. Les clés restent sur le contact et les portières ouvertes. Marie-Thérèse, 25 ans, est aperçue pour la dernière fois. Le soir même, son époux signale sa disparition. Des employés de la SNCF racontent avoir entendu des cris. Yves Chatin, propriétaire de la maison devant laquelle elle s'est égarée, est alors entendu. Ce chauffeur routier est déjà connu des services de justice pour avoir agressé deux femmes, mais faute de preuves, il est relâché. Ce n'est qu'en 2022, après la réouverture de l'enquête, qu'il avoue le meurtre.
Le mis en examen donc, a avoué qu'il avait étranglé Marie-Thérèse Bonfanti suite à un contentieux qu'ils avaient eu quelques minutes auparavant sur l'emplacement où s'est égarée Madame Bonfanti.
Sur ces indications, le crâne de Marie-Thérèse Bonfanti sera retrouvé 36 ans après sa disparition. Les débats portent aujourd'hui sur la prescription du crime.
Avec nous, deux invités que j'accueille avec plaisir, maître Yves Boulou, l'avocat de la famille Bonfanti. Bonjour maître, merci d'être ici. Et Eugène Sala, le frère de la victime Marie-Thérèse Bonfanti, merci également. On rappelle, et on l'a vu dans le sujet, qu'on retrouvera la voiture de votre sœur, portière ouverte, clé sur le contact. Et nous, ce qui nous intrigue avec Laurent, et on a beaucoup parlé, le suspect, il a nié, longtemps. Il y a eu un non-lieu en 1987, et puis en 2020, le parquet rouvre ce dossier. Alors pourquoi est-ce qu'il rouvre, et pourquoi est-ce que deux ans plus tard, ce suspect finit par avouer?
Alors pourquoi il ouvre? Les planètes s'étaient alignées à Grenoble à cette époque, lorsque M. Saya a apporté un mémoire qu'il avait reconstitué, grâce à l'aide aussi d'un ami et de toute la famille, au procureur Éric Vaillant, qui a, bien heureusement, malgré la prescription, décidé de confier cette enquête au service de la gendarmerie nationale de Grenoble, qui était à l'époque déjà spécialisée dans les affaires de Colcaise. Donc les planètes
déjà
étaient
en pointe.
Déjà en pointe. Et effectivement, les gendarmes ont retravaillé le dossier qui avait été préalablement traité par la famille Bonfanti. Et ils ont réentendu plusieurs années après des témoins. Et ils ont travaillé avec des auditions nouvelle manière, hein, avec
technique.
avec des analyses comportementaux, et effectivement on a réentendu Monsieur Chatin à cette époque. Il y a eu 4 auditions et c'est au bout de la 4e, au tout début même de la 4e audition, qu'il a fini par cracher le morceau, comme il a dit.
Pourquoi, à votre avis, qu'est-ce qui fait que Yves Chatin, qui nie depuis le début, tout d'un coup, alors qu'il n'y a pas vraiment d'éléments nouveaux comme vous venez de le dire, tout d'un coup il avoue?
Alors, à mon sens, il n'y a pas d'éléments nouveaux, puisqu'on a travaillé avec les mêmes éléments qu'en 1986.
Oui. Alors,
pourquoi?
Le déclic?
Le déclic, c'est soit, effectivement, les gendarmes, et c'est ce que je pense aussi, ont très bien fait leur travail en ce qui concerne les auditions. Ils ont posé les bonnes questions, ils ont bien analysé les réponses, et ils s'est peut-être senti, on va dire, coincé. À moins aussi que son conseil, qu'il assistait, lui ait peut-être fait comprendre, mais ça je n'en sais absolument rien, ça n'engage que moi, que l'affaire étant prescrite, il ne craignait plus rien et il pouvait avouer tout ce qu'il voulait. Peut-être que c'est ça.
Eugène Sala, vous vous souvenez votre réaction, vous, en 2022, lorsque Maître Boulou vous annonce que Yves Chatin a avoué?
Alors oui, je me rappelle de ce moment-là. Il était 23h30 quand Maître Boulou m'a téléphoné pour me dire... ça y est, quelqu'un a été mis en examen suite à l'enlèvement, à la disparition de votre sœur Marie-Thérèse. Et il me dit, moi je lui dis, c'est Monsieur Chatin. Et là il me dit, oui, c'est Monsieur Chatin. Donc on avait vu juste depuis tout le début, et malheureusement il a fallu attendre 36 ans pour que Histoire révélée.
C'est vrai que c'est affolant, cette histoire, puisque le premier jour, la première heure, on voit sur les archives de l'INA aujourd'hui, en 1986, le mari de Marie-Thérèse Bonfanti, vous-même, toute la famille, d'ailleurs, c'est grâce à vous tout ça, puisque vous n'avez jamais lâché le morceau, vous avez toujours considéré qu'il pouvait y avoir qu'un seul suspect, c'était lui. Alors, qu'est-ce qui a dysfonctionné le plus pour qu'une brigade de gendarmerie puisse imaginer que quelqu'un qui laisse sa voiture, les portes ouvertes, les clés sur le contact, tout à l'intérieur, et choisi de disparaître volontairement.
C'est compliqué.
Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché ce premier jour ?
Je pense que les enquêteurs ont minimisé l'importance de cette disparition.
Et par manque de bras, par manque de moyens, par manque de volonté, comment vous l'expliquez ? Enfin, à l'époque, on n'a pas les mêmes moyens scientifiques, techniques et scientifiques, c'est sûr, mais...
Je pense que la volonté et puis le désir de faire sortir la vérité, plus ou moins, a été que on laisse ce dossier comme un fait divers et ainsi.
Non traité. La reconstitution, Maître Boulou, ça a donné quoi et qu'est-ce qu'on en attendait ? Alors, Yves Chatin a rejoué le scénario qu'il a servi en garde à vue, donc il parle d'un étranglement, d'une altercation pour un problème de stationnement, puis d'un étranglement. Est-ce que vous avez tous les morceaux du puzzle ou est-ce qu'il en manque ?
Je crois qu'on en a certains, il y en a qui ont peut-être été rajoutés, mais donc on n'aura jamais la vérité. Moi, je pousse un bon coup de gueule dans cette affaire. C'est pas la première fois, mais je profite d'être sur votre plateau.
Vous en prie.
Cette reconstitution, elle avait été demandée en 1988 par l'avocat de la famille, Georges Rossetti, qui était un pénaliste connu et reconnu. Et cette reconstitution lui a été refusée par la chambre d'accusation.
Au motif de quoi, à l'époque, en 88 ?
Que le juge d'instruction, qui était en charge de ce dossier, comme de l'affaire Biou d'ailleurs, qui... traite en même temps, ils avaient suffisamment bien travaillé. Tout ce qu'ils avaient fait avait été bien fait et qu'on ne pouvait rien faire de plus. Moi, je suis persuadé que si la reconstitution avait été faite à cette époque, on aurait pu le confondre.
Plus
oui,
vite.
En 2022, on n'avait pas d'autres éléments. Les contradictions, elles existaient déjà en 1986.
C'est vrai que ce qui est... Alors, en 86, il n'y a pas l'ADN. L'ADN, c'est 1987 en Angleterre, la première enquête ADN.
Et un peu plus tard chez nous.
Mais en 91, quand la maison, cette maison lugubre, on la voit sur les images, c'est vraiment une maison sordide, quand la maison de Chatin est détruite par la mairie, la famille, et notamment la famille de Marie-Ange Bilou, se bat pour qu'il y ait des expertises dans la maison, pour qu'on creuse...
Qui ont lieu ou qui n'ont pas lieu.
Fausses dans le garage. Elles n'ont jamais lieu,
jamais
même
lieu.
Ces expertises. Même il y a un sujet au journal de 20h de France 2 où la pauvre maman de Marie-Angèle, Bilou, vient avec des ossements qu'ils ont retrouvés dans la fosse du garage, qu'ils ont creusé eux-mêmes.
Bon, il se trouve que c'était des ossements d'origine animale.
Oui, mais la justice aurait pu creuser, franchement.
Bien sûr.
Là, ça dysfonctionne à tous les étages judiciaires, maître.
Complètement. Alors, cette reconstitution, elle est bienvenue. Maintenant, aujourd'hui, les juges essayent de combler les lacunes de leurs aînés, on va dire, et elles font tout, les deux magistrats et les gendarmes de Grenoble font tout pour, effectivement, combler ces lacunes.
Mais
39 ans se sont écoulés et on en arrive au fondamental problème de la prescription.
Voilà.
Donc on le rappelle, le meurtre, il est prescrit depuis 1998, mais le parquet, lui, il estime que ça s'applique à partir des aveux. Donc 2022, essayons de faire un peu de pédagogie. Donc en 2023, il y a la Cour de cassation qui a tranché et qui a dit il y a prescription. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Est-ce que vous pouvez nous raconter la suite ?
Oui, alors nous, on soutient alors les juges d'instruction, le parquet général de Grenoble à l'époque, monsieur Dallest, soutenait comme nous, le parti civil, que la prescription ne pouvait courir qu'à compter soit des aveux, soit de la découverte du corps, donc en 2022. Mmh. Et la Cour de cassation ne nous a pas suivis. Elle ne nous a pas suivis parce qu'elle considère que la dissimulation d'un corps humain n'est pas un fait qui rend insurmontable l'exercice de l'action publique.
On est devant une absurdité judiciaire.
Voilà. Alors que
dans les affaires financières, la prescription commence le jour de la découverte de la fausse facture.
D'accord.
Ça peut être 20 ans, 30 ans plus tard.
Et là,
les affaires d'homicide, la justice, la Cour de cassation, alors ça revient devant elle. Mais la Cour de cassation estime que cette affaire est prescrite malgré les aveux et la découverte
du corps. Donc on a un suspect, des aveux,
une dissimulation du corps et pas de procès. Alors, la Cour de cassation a cassé, ça a été renvoyé devant la chambre de l'instruction de Lyon, qui a rendu un arrêt, mais alors particulièrement bien charpenté juridiquement et en fait. Et aujourd'hui, le dossier est de nouveau, devant la Cour de cassation. Sauf que la Cour de cassation n'a pas encore aujourd'hui décidé laquelle de juridiction va trancher, si c'est la chambre criminelle, si c'est la chambre mixte.
Mais alors, la Cour de cassation, elle a devant elle, c'est vrai que c'est une vague, parce qu'en réalité, probablement, il y en aura d'autres. C'est que Paul Colquez, il enquête sur ces vieux dossiers, justement.
Ça peut ouvrir des portes,
ça peut ouvrir des portes.
Surtout que la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Caen a rendu cette semaine un arrêt quasiment identique et qui concerne des faits quasiment identiques à Madame Bonfanti, et qui va dans le sens de la Cour d'appel de Lyon et de la Cour d'appel de Grenoble.
On sent bien qu'on est face à quelque chose d'absurde. Yves Chatin, il a avoué, on a retrouvé le corps, alors que pendant des années, l'affaire était prescrite parce que c'était une disparition volontaire. Aujourd'hui, c'est un homicide avoué. Et puis Yves Chatin, il est en liberté aujourd'hui.
Et c'est ça la torture, parce que vous, le frère de Marie-Thérèse Bonfanti, savoir qu'Yves Chatin a avoué et dans la nature et vit sa vie, entre guillemets, tranquillement, comment vous supportez ça? C'est de l'ordre de la souffrance psychologique.
Oui, ça a été une souffrance psychologique, elle se l'est toujours en ce moment, puisque lors de la reconstitution, on l'a vu arriver libre.
Vous y étiez?
Et oui, on était... Et les victimes présentes, parce que Madame la juge nous avait convoqués pour que nous soyons présents. Et lorsqu'on l'a vu repartir libre, alors qu'il venait de nous montrer comment il avait tué Marie-Thérèse, pour nous, c'était vraiment catastrophique. Mmh. On se demande, comment est-ce possible? Alors que il a avoué le meurtre et il a donné l'endroit où était le corps, on a retrouvé des ossements et vraiment on était vraiment abasourdi. De plus, lors de la reconstitution, il a fait des gestes, des actes très très violents sur les mannequins.
Il a mimé l'étranglement.
Voilà, il a mimé. Alors juste avant l'étranglement, soi-disant, il a fait. Deux uppercuts sur la tête de Marie-Thérèse et même le mannequin, la perruque, elle volait de 30 centimètres. Donc pour montrer la violence des gestes et ensuite il l'étrangle. Alors lors de sa garde à vue, oui, il déclare aux enquêteurs qu'il l'a étranglé, mais il n'a pas donné de coups. Et là, lors de la reconstitution, il dit qu'il a donné des coups. Alors, je me suis mis un peu en recul par rapport à ces faits et je me suis dit, est-ce qu'il n'a pas fait des gestes qui appartiennent à une autre agression?
Est-ce qu'il confond pas les agressions?
Voilà.
En tout cas, c'est très intéressant.
Oui, parce qu'il y en a deux autres. Il y a Liliane Chevènement qui disparaît en 1981 à deux pas de chez lui, et puis Marie-Ange Biliou qui disparaît en 19 ans, qui disparaît en 1981.
Merci. C'est un cas vraiment très intéressant qu'on suivra parce que vous l'avez dit, peut-être que ça va ouvrir d'autres portes sur d'autres dossiers judiciaires et que cette affaire, ce dossier servira à d'autres afin d'avancer sur la vérité judiciaire. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. Tout de suite, c'est l'invité de la semaine.